is a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa
Galère, bonjour à toutes et tous. C'est la rentrée, et même à Livres et Amis, c'est la rentrée. Les animations de l'été dans Marseille se terminent, les expos bientôt aussi, mais nos cinémas et nos théâtres favoris vont ouvrir pour leur saison, vont lancer leur nouvelle saison 24-25. Mais ça fait drôle hein, quand on change d'année et de saison comme ça. Alors le Gyptis, l'Alhambra, la Baleine, la Joliette, la Criée vous attendent. Et aujourd'hui, Livres et Amis du 4 septembre 2024, et ben figurez-vous qu'il fait gris. Et nous partons pour la Bretagne, histoire de rester dans la note. Alors en Bretagne, il doit faire gris et un peu moins chaud, parce qu'ici, il fait quand même gris et chaud. Mais tout va bien, ou presque. Et on va dire que le paysage de notre société environnante n'est pas génial. Mais enfin, on compense. On a dit la semaine dernière que lire, c'est voyager. C'est vrai, lire, c'est toujours voyager. Et donc aujourd'hui, nous allons partir pour la Bretagne, une drôle de Bretagne, une Bretagne du, disons, du premier tiers du XXe siècle. Et c'est vrai qu'on va partir pour Belle-Île-en-Mer. Belle-Île-en-Mer, ça pourrait faire rêver. Marseille, c'est plutôt Belleville-sur-Mer. Belle-Île-en-Mer, a priori, ça évoque les vacances, Laurent Voulzy, une petite houle douce et tranquille. Enfin, ça, c'est pas toujours vrai. Mais alors, le Belle-Île-en-Mer dont on va vous parler, non, c'est pas du tout ça. C'est pas Belle-Île de rêve, c'est plutôt Belle-Île de cauchemar. Destination Belle-Île, en effet, avec Sorge Chalandon. En fait, de lui, on vous a déjà lu il y a quelque temps le quatrième mur, qui était sur la création d'un théâtre bien improbable au Liban, en pleine guerre. Et cette fois-ci, nous allons vous lire L'Enragé. L'Enragé, qui est un roman paru en 2023, qui nous a été conseillé par Odile. Et en fait, L'Enragé, c'est un personnage, c'est un enfant, un adolescent, un jeune adulte, abandonné et révolté, donc enragé. Ce personnage, il est imaginaire, mais son lieu de vie, dont nous vous parlions à Belle-Île-en-Mer, son lieu de vie a bien existé, on pourrait dire hélas. C'était une maison de redressement, un pénitencier pour les jeunes, où les conditions de vie rappelaient celles que nous avions décrites aussi avec Colson Whitehead dans Nickel Boys. Une discipline de fer et imbécile, la sous-alimentation, pratiquement jamais de cours ou d'enseignement, mais de très durs travaux, des mauvais traitements continuels, des corrections, entre guillemets, des coups, oui, et des surveillants qui sont, pour bien d'entre eux, enfin beaucoup d'entre eux, qui sont revenus invalides de la Grande Guerre, comme on disait à l'époque, et qui continuent à se venger de la société, de ce qu'elle leur a fait subir. Donc, un certain nombre d'enfants de 12 à 18 ou de 12 à 20 ans sont enfermés dans ce pénitencier pour jeunes de Belle-Île-en-Mer qui s'appelle Haute-Boulogne. Je ne sais pas pourquoi, mais vous pourrez aller chercher ça si ça vous intéresse. La maison de correction de Haute-Boulogne, donc à Belle-Île-en-Mer, qui n'a fermé, tenez-vous bien, qu'en 1977. On se demande ce que c'était devenu après la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'était toujours une maison de redressement quand même. Et là, quand on y est, quand surtout notre personnage qui s'appelle Jules, quand Jules y vit dans les années 20 et 30, c'est vraiment un enfer pour les gamins. Et le 27 août 1934, ça c'est un fait réel, 56 gamins et adolescents, tout à coup, s'évadent du pénitencier de Haute-Boulogne à Belle-Île-en-Mer. Tous sont repris, sauf un. Et en fait, c'est à partir de ce fait réel, de cette évasion d'enfants à partir du pénitencier de Belle-Île, que Sorge Chalandon, qui a été longtemps journaliste avant d'être écrivain, c'est à partir donc de cette évasion du 27 août 34 et du fait qu'un enfant n'est pas repris, qu'il va imaginer le roman de la vie de Jules. On peut donc se dire que Jules, c'est un personnage imaginaire, que par contre, les faits qui sont racontés sont, eux, hélas, souvent tirés du réel. De même que, on l'a vu, donc, l'existence de ces pénitenciers pour enfants. Donc, raconter la vie de Jules dans les années 20 et 30, dans ce pénitencier de Belle-Île-en-Mer, c'est raconter la vie d'un enfant paria de la France des années 30. C'est aussi parler justement de cette France des années 30 où la condition des enfants est souvent affreuse, en effet, même s'ils sont dehors. Et leurs conditions de vie et de travail n'ont parfois rien à envier aux périodes les plus noires du 19e siècle. Alors, notre personnage, ou plutôt le personnage de Sorge Chalandon, il s'appelle Jules et il s'appelle Jules Bonneau. Enfin, je pense que Sorge Chalandon ne l'a pas appelé Jules Bonneau pour rien, mais il l'a appelé Jules Bonneau, B-O-2-N-E-A-U. Comme ça, quand les gens disent à Jules, dans les années 20, « Ah ah ah, Jules Bonneau, c'est pas étonnant que t'aies mal tourné », puisque Jules Bonneau, bah oui, c'était le chef de la bande à Bonneau, bien sûr. Jules Bonneau, le nôtre, le héros de l'histoire, il dit « Non, ça s'écrit pas pareil ». Puisqu'en effet, son nom s'écrit 2-N-E-A-U, alors que Jules Bonneau, le fameux Jules de la bande à Bonneau, c'était B-O-2-N-O-T. Mais c'est vrai que c'est un clin d'œil, au fond, hein, puisque la bande à Bonneau, c'était un peu les Robins des Bois du braquage du XXe siècle. Et il y avait des intellos. Même si vous n'avez pas vu le film, vous avez peut-être vu des photos de Jacques Brel jouant Raymond Lascience ou d'autres photos du film qui a reconstitué l'histoire de la bande à Bonneau ou des photos d'origine de la bande à Bonneau. C'est vrai qu'on est dans un monde où les vauriens ou les voyous sont quelquefois populaires et on est aussi dans un monde où les honnêtes gens, entre guillemets, aident la police à poursuivre les voyous ou les vauriens parce qu'il faut faire respecter les règles et la discipline. Alors, à Belle-Île, c'est un peu ce qui se passe. Quand le 27 août 34, 56 gamins s'évadent du pénitencier, eh bien, la police promet une pièce de 20 francs. C'est une pièce de 20 francs argent. Je ne sais pas exactement ce que ça payait. Ça payait peut-être une semaine de repas ou un truc comme ça. Enfin bref, la police donne une pièce de 20 francs argent contre l'aide à l'arrestation des gamins. Et toute la heureusement pas toute, mais une grande partie de la population de Belle-Île se met à faire la chasse à l'enfant. Tant et si bien que Jacques Prévert, dans son recueil de poèmes, paroles, Jacques Prévert écrit un poème qui a pour titre « La chasse à l'enfant ». Et « La chasse à l'enfant » est directement inspirée de cet épisode de Belle-Île-en-Mer où pratiquement toute une population se met en effet à poursuivre des enfants évadés du pénitencier. Et ce poème de Jacques Prévert, « La chasse à l'enfant », bah oui, il est très frappant. Il a dû frapper aussi Sorge Chalandon, tant et si bien d'ailleurs que Sorge Chalandon, il imagine une rencontre à Belle-Île entre Jacques Prévert et Jules Bonneau. Il y a un moment où Jules rencontre Jacques Prévert. Et c'est évidemment imaginaire, mais c'est vrai que Jacques Prévert, il a eu très longtemps une maison en Normandie, dans un coin aussi un peu déshérité de la Normandie. Donc, le fait est que Jacques Prévert, bien sûr, et son frère Pierre, étaient des gens qui étaient très libertaires et qui ont écrit des textes littéraires et des scénarios de films qui étaient évidemment des défenses du peuple et des attaques au contraire contre les horribles conditions de vie de certaines parties de la population. Donc c'est pas du tout idiot d'envisager une rencontre entre Jacques Prévert et Jules Bonneau, mais en tout cas ça nous permet de retrouver aussi ce texte, La chasse à l'enfant. Je suis désolée, c'est pas ça que je vous ai mis en musique. En musique, je vous ai mis autre chose sur l'orphelinat, mais je vous encourage vivement à aller relire La chasse à l'enfant dans Paroles de Prévert. On va commencer donc avec la vie, entre guillemets, de Jules Bonneau dans son pénitencier. En fait, je vous résumerai rapidement après comment il arrive. Je vais demander à Françoise de lire ce que dit Jules de son arrivée à ce qu'il appelle la colonie pénitentiaire, puisque ça s'appelle comme ça, la colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer.
Je suis arrivée à la colonie pénitentiaire le 16 mai 1927, crâne rasé pour éviter les poux et aussi pour me marquer. J'avais été admis chez les marins. Il manquait de bras à la corderie et à la menuiserie. Et je me suis retrouvée à tresser des torons de chanvre. Le 20 mai, j'étais mise au cachot pour la première fois. Je dormais dans un dortoir de 8 au deuxième quartier. J'avais mon lit près de la porte. Le premier soir, les autres avaient jeté mon matelas dans le couloir. Le soir d'après aussi. Et encore le jour suivant. Lorsque je suis rentrée dans la chambrée pour la quatrième nuit, mon matelas était roulé dans un coin et ma couverture défaite. Cette fois, le drap était humide de pisse. Je l'ai porté dans le couloir sans un mot, puis j'ai violemment renversé le matelas d'à côté, volé le drap sec, et retourné le matelas suivant, un autre, encore un, tous les sept. Je ne rêvais pas. Je venais de répondre coup pour coup. Et là, j'ai vu. J'ai compris qui était le caïd, celui qui poussait les autres à maltraiter le nouveau. Il s'appelait Jean Soudard. Dans la pièce, personne n'avait bougé, mais lui s'est rué sur moi, poing levé en hurlant. Et je l'ai accueilli à coups de chaise. Le nez, la bouche, il s'est écroulé sans un mot, les yeux immenses. Lorsque les gaffes sont arrivées, Soudard était assis sur son lit, sonné, du sang plein les lèvres. Il m'a dénoncé en sanglotant. Doigts tendus. Les gardes m'ont emmené, j'ai craché sur ses pieds nus. N'en rajoute pas, Bonneau a grincé le manchot. Le gardien s'appelait Pierre Le Goff. Lui et les autres se doutaient. Soudard avait probablement reçu ce qu'il méritait, mais j'ai refusé de coopérer. Je n'ai pas raconté qu'ils avaient joué avec mon matelas, répondu à aucune question. J'étais assis dans la salle des gardes, menotté dans le dos et tête baissée, lorsqu'un responsable est arrivé. « Regarde-moi, Bonneau !» Il m'a soulevé le menton avec son air de bœuf. « Qu'est-ce qu'il t'a fait, Soudard ?» J'ai planté mes yeux mauvais dans les siens, sourcils froncés, mâchoire soudée. « Tu as une dernière chance d'alléger ta peine, alors réponds !» Silence. Le gardien-chef, Ambroise Chautant, évaluait Jules Bonneau, son nouveau colon. Il a rangé sa trique. « Tu es une vraie teigne, toi, hein ?» Pas de réponse. « Maintenant, tu baisses les yeux », a ordonné Chautant. J'ai été condamné à 30 jours de quartier disciplinaire, dont 3 au pain sec et à l'eau. Privé de cours, de messes, de récréation et de réfectoire. Repas au cachot et présence obligatoire à la corderie. Ils me punissaient, mais m'obligeaient à travailler. J'ai remonté le long couloir cellulaire avec une serviette et 2 couvertures pliées dans les bras, escorté par Le Goff et celui que les autres appelaient Napoléon. Murs sales passaient à la chaux grise, plafond cloqué, humidité, odeur d'homme et de rance, un caveau. De chaque côté, une vingtaine de cachots. Derrière une porte à Judas, un détenu riait comme un dément. J'ai cru reconnaître la voix de Blin, un apprenti couturier qui faisait tout pour se retrouver à l'asile. Le Goff a donné un coup de poing sur l'œilleton de fer sans même s'arrêter. Blin s'est tué un instant, puis il a ri. « T'aurais dû balancer Soudard !» m'a glissé Napoléon, la main droite passée sous son gilet. Il m'a fait un clin d'œil. « Tu crois que ce salopard fait des cadeaux aux autres, lui ?» Le Goff a glissé une grosse clé dans la serrure d'une porte. « Déshabille-toi !» J'ai enlevé mes souliers, mon pantalon. J'ai hésité. « Le reste aussi ?» tout. Tu gardes seulement ta chemise. » J'ai voulu conserver le ruban. Il l'a fourré dans ma poche de bourgeron. Il a fait un tas de mon paquetage. Même si un puni arrivait à ouvrir le loquet extérieur, à traverser le couloir, filer à travers les quartiers et escalader le mur, il ne ferait pas trois pas dans la rue, le cul nu. La serviette de toilette reste dehors, au clou. Réveille à 5h30 et dépose des couvertures dans le caisson devant la porte avant l'arrivée de la gamelle. Compris ? J'ai hoché la tête. « Et si tu as des questions, tu les gardes pour toi », a ajouté le gardien. Il m'a poussé dans la cellule disciplinaire. Un placard, 3 mètres sur 2, sol en ciment, une lucarne grillagée dans le fond et un matelas qui mangeait toute la place. « La prochaine fois, la teigne, un conseil d'ancien. Ne te fous pas de nous. » Lorsque je suis retournée au dortoir, mon matelas n'avait pas été touché. Personne n'a plus jamais défait mon lit. J'avais cogné, j'avais encaissé, je n'avais pas dénoncé. Respect. À côté de ma table de nuit, j'ai même pu afficher une vieille photo de la Citroën 5 chevaux qu'on appelait la petite citron à cause de sa couleur jaune. Cette voiture, j'en rêvais depuis l'enfance. J'en voyais une, toujours la même, la seule, passer dans les rues de Laval avec un père, une mère et leur fils à l'arrière, assis bien droit au milieu. Il roulait souvent la capote baissée. Il prenait des airs, surtout le gamin, quand il me voyait traîner sur le trottoir. Je marchais, il roulait. Un jour, il a craché dans ma direction. La mère était jolie, chaque fois avec un foulard différent. Le père avait des lunettes de course et leur gosse grignotait sans cesse, les lèvres barbouillées de chocolat. Lorsqu'il arrivait à un carrefour, le père actionnait son klaxon électrique, hurlement de cuivre. Il faisait sursauter les fillettes et le fils riait fort du gâteau plein la bouche. En arrivant à Belle-Île, j'avais la photo de la voiture dans mon paquetage, découpée dans un vieux journal qui traînait. L'image était en noir et blanc, alors j'avais colorié sa carrosserie grise en jaune citron. J'aurai la même plus tard quand je serai grand. Ce jaune vert était une preuve de la liberté. Saisir la manivelle à deux mains, m'installer sur le siège, poser mes gants de conducteur sur le volant en cuir, et puis rouler loin, le visage giflé par la vitesse, laisser le haut mur dans mon dos, les matons, les salauds qui piétinaient le lit des nouveaux, rouler dans la campagne, dans les forêts, au bord des lacs, m'arrêter où et quand je le voudrais, et trouver une chic fille pour le siège d'à côté qui aurait un foulard différent pour chaque jour devant. Et puis, quelqu'un derrière, un jour, sur le siège fait exprès. Une fille, un fils, je m'en fichais. Mais un enfant de l'amour qui n'aurait jamais de ruban de soie grise au poignet, qui ne prendrait pas un air supérieur, qui ne ferait pas envie aux autres avec sa petite duchesse au chocolat et qui ne cracherait pas pour faire honte aux pauvres.
Oui, la petite voix gentille de Françoise pour nous dire toutes les horreurs de l'orphelin Jules Bonneau, d'abord dans sa cellule, et puis dans ses rêves à Laval, dans ses rêves de citron, enfin de Citroën 5 chevaux, la petite citron. C'est vrai que, évidemment, la voiture, c'est très rare dans les années 20 et 30 en France. Et cette petite citron, ça fait rêver les petits garçons, oui. Ce qui fait aussi rêver Jules, c'est bien sûr la campagne et la liberté, puisque avant de connaître les hauts murs de l'orphelinat, il n'a pas connu grand-chose, à part les murs gris des vieilles maisons de Laval. C'est un enfant abandonné par sa mère, très jeune. Et tout ce qu'il a gardé de sa mère, c'est ce fameux ruban gris dont il nous parle un peu sans arrêt dans l'histoire. Le petit ruban gris de soie avec lequel sa mère s'attachait les cheveux. Et quand elle est partie, un peu contrainte et forcée par la misère, elle a laissé à son fils le petit ruban gris. Donc Jules va continuer sa vie au pénitencier en ayant toujours sur lui le petit ruban gris. Et puis, il a aussi des secrets. Il a, cette vieille photo de la petite citron, qui n'est pas un secret. Et on va voir qu'il a, par contre, des journaux secrets, disons, Et on va s'apercevoir qu'en effet, malgré la très dure discipline de la colonie, il a réussi à détourner la surveillance pour s'approprier des informations sur la société qui entoure l'orphelinat. Alors en fait, on en a la révélation alors que le directeur de la colonie doit, entre guillemets, changer. C'est-à-dire que le bruit court dans le pénitencier que ce fameux directeur, qui a comme tous les matons, enfin comme tous les surveillants, très mauvaise réputation, doit changer parce qu'il est promis à une belle carrière quelque part en Bretagne. Et en fait, Bono, on va comprendre en lisant l'extrait, Jules Bono, donc, stupéfait les autres pensionnaires en disant « Non, non, c'est pas vrai. » Je vous lis l'extrait. « Ce dimanche, j'ai stupéfié la colonie. Après la parade, le lever des couleurs et la messe, j'ai profité de la promenade pour dire aux autres que tout cela était faux. » Il n'était pas question que le bouc s'en aille. Le bouc, c'est le directeur. Quelqu'un se fichait de nous depuis 2 mois. Peut-être même Colmont lui-même, qui nous divisait pour mieux régner. Et j'ai annoncé à tout le monde que non, il n'y aurait pas de changement de direction. Mieux, la semaine prochaine, à Vannes, il prendrait la parole dans un meeting de la Fédération républicaine et brandirait la colonie pour preuve de sa réussite en matière de réinsertion. Il se moquait bien des critiques ou des on-dit qui faisaient qu'on pensait qu'il allait partir. Il comptait bien diriger Haute-Boulogne encore longtemps. Je l'avais lu dans l'Ouest républicain. Et j'avais découpé l'article du journal pour le montrer à tout le monde. Stupeur. « Mais où t'as eu ça ?» a interrogé Moisan. J'ai replié l'article et je l'ai fourré dans ma poche de pantalon. Vers midi, mon affaire était remontée jusqu'au directeur. Nous avons été rassemblés dans le grand préau, au clairon et au pas de course. Pas de mouvement de mauvaise humeur, pas de blague, l'affaire était grave. Chautan nous a fait aligner, main droite posée sur l'épaule de l'autre. Il frappait sa jambe à coups de nerf de bœuf. Et on était tenus ! Les pupilles ont tous enlevé leur béret, leur bonnet, leur casquette. Et puis, nous avons attendu. 200 enfants... Une heure, sans bouger, avec le Goff et Napoléon qui passaient entre nous pour rectifier les positions. Lorsque Colmont est arrivé, c'est moi qui l'a cherché des yeux et il a monté l'escalier de la chaire et a dit « Bono, hors du rang !» Je me suis faufilée entre mes camarades, pas un seul ne m'a regardé à ce moment-là. « Ici, Bono !» Avec sa baguette de bambou, il a désigné la croix blanche des accusés tracée sur le sol. J'ai fait les derniers pas, tête basse, jusqu'à la croix blanche. « Retourne tes poches !» Quelqu'un avait bavé. J'ai gagné du temps. Mes poches de vareuse, haut, bas, puis les poches de mon pantalon. Et là, oui, l'article est tombé à mes pieds. Le Goff, le manchot a accouru, il a ramassé le papier et l'a apporté au directeur. Celui-ci n'avait pas bougé, obligeant le gardien à monter les 3 marches. Alors, oui, Colmont a déplié le document. Il a reconnu sa photo, il a reconnu l'article et le titre de l'Ouest républicain, François Donatien de Colmont, l'intransigeant de Haute-Bologne. Il a levé la tête. « Où as-tu volé ça, Bono ?»« Dans votre poubelle, monsieur. » Le directeur a été saisi. Il est descendu de son perchoir et s'est approché de moi. « Tu peux répéter ?»« Dans votre poubelle, monsieur. » Le directeur s'est retourné vers Chautan. « Dans ma poubelle ?» Le gardien a baissé la tête. Bon, cette fois, il m'aurait vraiment égorgé. « Tu as accès à mes poubelles, Bono ?»« Non, monsieur. Tu as un complice, donc ?»« Oui, monsieur. » Colmont a paru étonné. « Son nom ?» Je l'ai regardé. « C'est embarrassant, monsieur. » Il a croisé les bras. « Peur de dénoncer un camarade ?» J'ai secoué la tête. « Non, non, ce n'est pas un pensionnaire. » Il a fait la moue. « Et qui donc, Bono ?»« Ben, un surveillant, j'ai dit. » Sidération. J'ai échangé l'article contre autre chose. des détenus ont ri et il y a eu un début de tumulte. « Silence !» Le golfe a hurlé. Napoléon a secoué un des enfants qui criait. Chotan a claqué une nuque. « Vous voulez son nom, monsieur le directeur ?» Colmont était livide. Il a claqué deux fois dans ses mains. Réfectoire annulé. Pas de promenade. Pas de récréation cet après-midi. Dispersion. Retour immédiat aux ateliers. Chaussures râpées sur le sol, touche, ahue, gloussement, bruit de paix avec la bouche, sifflet, cri pour répondre à ceux des mouettes. Colmont m'a agrippé par le bras. « Chotan, perquisition de sa cellule !» Les gardiens m'ont poussé dans la cour, déséquilibré, traîné, poussé, conduit jusqu'à la porte de ma cage. Le directeur fermait la marche. J'avais eu l'ordre de rester à genoux dans le couloir, front contre le mur, main sur la tête, pendant qu'il fouillait la chambre. J'ai fermé les yeux. J'entendais la petite table, le tabouret, l'armoire, ils retournaient tout. Lorsqu'ils ont soulevé le matelas, j'ai rentré la tête dans mes épaules. C'est là que j'avais aménagé une poche, à l'intérieur, entre le tissu, la bourre et les ressorts. Alors ça ? C'est le Goff qui avait parlé. Il sortait les journaux, un à un, de leur cachette. La voix du bouc. « Lève-toi, Bono !» Il était adossé au mur de ma cellule, sidéré. À ses pieds, le gardien jetait ses trouvailles. La Croix, le Figaro, l'Union catholique du Morbihan. Des exemplaires de chaque. Ouais, des coupures soigneusement pliées. Le Goff était à genoux, bras valides plongés tout au fond. La semaine religieuse de Vannes, l'avenir du Morbihan et même l'action française dans un repli. Le gardien a jeté un coup d'œil embarrassé à son chef. Je m'étais procuré l'édition du 7 février 1934. Sur toute la première page, après les voleurs, les assassins. Je continue. Colmont guettait les réactions. Et brusquement, le manchot a brandi un fascicule à la couverture tachée. Un livre, monsieur. Ah oui, ça, c'était l'instant que je redoutais. Les enfants de Caïn, c'était un petit livre qui avait été publié en 1925 par un journaliste. Il parlait de nous et de la colonie comme une véritable école du mal. Louis Roubaud, l'auteur, racontait tout. La violence, les corvées, les punitions, la crasse, la faim, les pupilles qui tombaient malades ou devenaient fous. J'avais lu des passages en cachette et même je les avais lus à d'autres. L'écrivain avait inventé l'histoire de la gamelle de soupe fumante avec la cuillère qui tenait debout dedans comme dans un pot de colle. Et ça nous avait fait bien rigoler. C'est vrai, il y avait des trucs, il exagérait. Mais enfin, on savait que c'était pour notre bien et puis c'était pas tellement exagéré. Voilà, donc c'est la révélation du fait que Jules Bonneau, en effet, en échange de certains services aux surveillants, se procure ce qui traîne dans les poubelles du directeur ou quelquefois dans le bureau du directeur. Et ça va coûter cher, bien sûr, à Jules, ça va coûter encore un mois de cachot. Et ensuite, la vie reprendra, mais guère plus gaie. Et cette vie pas très gaie de l'orphelinat, eh bien, c'est Barbara qui va nous la chanter. Puisque cette chanson de Jean-Jacques Debout nous raconte les promenades des orphelins à l'extérieur de l'orphelinat, mais nous font bien penser qu'à l'intérieur, c'est différent. Donc, l'orphelinat.
Le mur de l'hôpital, on passe le pont sur la rivière, on tourne au coin du vieux cimetière pour suivre un peu le vieux canal, puis vers 5 heures on rentrera suivant d'autres murs, d'autres grilles, en passant par l'école des filles jusqu'au mur de l'orphelinat. En casquette à galons dorés, en capote à boutons dorés, tout au long des jeudis sans fin, voyez passer les orphelins. C'est pas souvent que j'ai gagné la médaille de la bonne conduite. J'aime pas manger la soupe gratuite, moi j'aime mieux dormir dans les prés. J'aurai pas mon certificat, paraît que je suis de la mauvaise graine, parce qu'un jour j'écris je t'aime sur les murs de l'orphelinat. En casquette à galons dorés, en capote à boutons dorés, tout au long des jeudis sans fin, voyez passer les orphelins. La nuit, je m'invente un vrai roman, que j'ai toujours mon père, ma mère, une vraie maman, robe claire et un papa qui a plein d'argent. Ah, si jamais ils entendent ça, je les en supplie qu'ils reviennent tout de suite avant que mes ongles s'effritent sur les murs de l'orphelinat. Casquette à galons dorés, en capote à boutons dorés, tout au long des jeudis sans fin, voyez passer les orphelins. Bien gros, je suis pas malin, j'ai peur de jamais être un homme, de rester toujours le pauvre môme à qui personne tendrait la main. Et malgré qu'on soit bon pour moi, un jour ça pètera dans ma tête, et pour peu que j'aie des allumettes, je foutrais le feu à l'orphelinat. En casquette à long doré, en capote à boutons dorés, tout au long des jeudis sans fin, voyez passer les orphelins. En casquette à galons dorés, en capote à boutons dorés, à galons dorés, à boutons dorés, à galons dorés, à boutons dorés, à galons dorés, à boutons dorés. Oui, monsieur, à boutons dorés.
Oui, monsieur. Oui, monsieur, on ne sait pas trop dans la chanson si l'orphelin est dehors ou dedans. Enfin, on ne sait pas trop si le personnage chanté là par Barbara est un gamin qui est dehors ou dedans. Mais c'est vrai que le poids des murs, il est à l'intérieur, il est à l'extérieur. Et même si les orphelins chantés par Barbara ont à la fois des galons dorés sur leur casquette et des boutons dorés sur leur capote, ben, les gosses de Belle-Île, ils n'ont ni l'un ni l'autre. Ils sont à peine attifés avec des chemises et des pantalons de toile et attifés de telle façon qu'en effet, si jamais ils s'échappent, comme en plus ils sont rasés régulièrement, on les repère tout de suite. Et la population les repère tout de suite. Et puis même s'ils s'échappent de l'orphelinat, bah, ils sont à Belle-Île et justement, après, il faut s'échapper de l'île. Et ça, s'échapper de l'île, aucun n'a jamais réussi. Jules Bonneau, lui, il est devenu la teigne. Il est devenu la teigne parce que, on l'a vu, il résiste aux autres, il résiste aux surveillants et il résiste même aux directeurs. Et en fait, le directeur le fait corriger. On voit là dans un petit extrait, enfin dans un court extrait que je vais vous lire, qu'il n'y a pas les traitements affreux mis en place par la direction comme dans Nickel Boys, mais il y a simplement des passages à tabac autorisés et même demandés par la direction. J'avais joué, j'avais perdu. C'était le prix à payer. Les trois gaffes, c'est les surveillants. Les trois gaffes s'entendaient bien. Ils avaient l'habitude de porter les coups ensemble. Pieds, poings. Le premier m'a donné un coup de tête pour que je m'effondre. Non, ils ne cassaient pas, ils endommageaient. Pour que j'aie des souvenirs après, des traces que les autres pourraient voir. Et en punissant un pensionnaire, ils mettaient en garde toute la colonie. Couché sur le côté, les genoux sous le menton, j'ai attendu. J'ai pensé à des bûcherons consciencieux. Pas un cri, pas une insulte, pas un mot. Ils frappaient comme on fait un travail. Cuisses, dos, bras, ils s'appliquaient. Et chaque coup porté résonnait de ma nuque à mon ventre. Au premier sang, ils arrêtaient. Dès que je suis tombée, j'ai mordu violemment ma joue, puis ma langue, exprès. D'abord, j'ai oublié un peu leur brutalité. Et puis surtout, le goût du sang a rempli ma bouche. Je l'ai mélangé avec ma salive et j'ai recraché en toussant. J'ai joué le malaise. C'était une façon de siffler la fin de la partie. Alors oui, le dernier coup de pied dans les reins. Et puis, ils se sont arrêtés. J'avais les yeux fermés. Je jouais le vrai blessé pour les inquiéter, pour gagner du temps. L'un d'eux a versé un brodeau sur ma tête, mon visage, mon corps meurtri. L'un des cogneurs a remarqué le ruban gris que je serrais dans mon poing. Il me l'a arraché, il l'a fourré dans sa poche et ils sont partis. Après, un autre est venu me chercher et m'a emmené à l'infirmerie. Ah, aucune blessure au monde n'était comparable à la perte de mon ruban gris, de mon ruban gris. Je me suis mis à genoux, je me suis levée. Il n'avait pas vraiment abîmé mon visage, mais mon oreille gauche saignait. « Allez, allez, à l'infirmerie, Bono !» a murmuré le goff. Il était un peu gêné, lui. Finalement, frapper un enfant, ce n'était pas dans ses habitudes. Alors, il savait que c'était le boulot des autres, ça y est, les autres avaient fait le boulot. Voilà, les autres ont fait le boulot, donc il y a eu un passage à tabac. Vous avez bien compris que c'est un genre de, je ne sais pas comment on dit, de circonstance permanente, de punition permanente. Et il se trouve que pendant que Lateigne, Bono, est à l'infirmerie, il a quand même le droit, si on peut dire, d'aller manger avec les autres au réfectoire. Et au réfectoire, il y a une espèce de discipline, là encore, stupide, qui fait que l'ordre des repas est intangible. Il y a la soupe, le fromage, le fruit. Il peut arriver qu'il n'y ait pas de fromage ou pas de fruit, mais enfin, il y a la soupe, le fromage et éventuellement un dessert, avec sans doute un morceau de pain. Et un jour, on ne sait pourquoi, un des plus jeunes, un des enfants, en arrivant à sa place, se jette sur son morceau de fromage. Il a envie de manger son morceau de fromage avant sa soupe. Et immédiatement, on sait pourquoi peut-être, oui, pour faire respecter la discipline, un gardien lui tombe dessus. Et ce jour-là, on ne saura pas pourquoi en effet, quand le gardien, pour cette histoire idiote de fromage mangé, pas à son moment donné, les autres se révoltent. Il y a 4 gardiens pour 200 enfants qui sont normalement en train de dîner. Et quand les 200 enfants ou adolescents tombent sur les 4 gardiens qui surveillent leur pas, les 4 gardiens, ils font pas la loi. Donc ce soir-là, le 27 août 1934, les 200 gosses tombent sur leurs gardiens. Et quand ils sont tombés sur les gardiens, ils vont chercher les couvertures dans les dortoirs. Ils font la fête, entre guillemets, de certains autres gardiens qui croisent dans les couloirs. Ils vont poser les couvertures sur les hauts des murs qui sont hérissés de tessons de bouteilles. Et ils s'en vont. Ils s'évadent. Ils montent à des échelles, ils sautent, ils courent, etc. Ils sont, on l'a dit tout à l'heure, 56 sur les 200 à franchir le mur qui les sépare, qui les sépare du restant de l'île. L'île elle-même bordée par la mer ou par l'océan, on le sait. Et donc, en fait, il y a 56 garçons dans la nature. Et le chef, enfin le directeur dont on nous avait parlé tout à l'heure, ce monsieur Colmont, bien mis et bien chic, il fait appel évidemment à la police et à la gendarmerie pour récupérer partout dans l'île les gamins évadés. Et comme on en a parlé déjà, une grande partie de la population de l'île se met à faire la chasse aux enfants. Jules Bono, lui, il a de la chance. Il pense, vous l'avez peut-être entendu tout à l'heure, il est entré comme marin à la colonie. En fait, à la colonie, on a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de cours, pas beaucoup d'enseignements, mais ce qu'on leur enseigne, c'est quand même un peu des métiers manuels. Et donc, on leur enseigne ou bien la menuiserie, ou bien la tapisserie, ou bien justement à être marin. Ils ont une espèce de navire-école qui est... un faux bateau, pourrait-on dire, immobilisé dans le ciment, dans la cour du pénitencier. Et ils ont des cours de je sais pas comment on appelle ça, des cours de marin. Comment ça s'appelle, des cours de marin? J'en sais rien, moi. Des cours de navigation. Hein. Et ils ont des cours de navigation. On leur a appris à manœuvrer les haubans. On leur a appris à manœuvrer les drisses et à manœuvrer les voiles. Et on leur a appris, c'est ce qu'a fait Jules Bonneau pendant de nombreuses heures, à fabriquer des filins, à fabriquer... dans un service de corderie comme à Rochefort, ces filins qui ensuite serviront sur les bateaux. Et donc, Jules, il sait ce que c'est qu'un bateau et il se dit que la seule chance qu'il a de pouvoir franchir la mer, c'est de trouver abri dans un bateau et d'essayer avec ce bateau de traverser. Donc, au bout d'une évasion, bien sûr, mouvementée, il va en effet trouver à s'abriter dans un petit port, non pas le port du Palais, qui est le grand port de Belle-Île et où tout le monde, évidemment, cherche à retrouver les évadés. Il va, au contraire, trouver refuge dans un petit bateau, dans un petit port. Et il se trouve que le marin-pêcheur à qui le bateau appartient va en effet abriter Jules, c'est-à-dire ne pas le dénoncer. Un jour ou deux, le marin-pêcheur, le patron-pêcheur, fait comme si son bateau avait une avarie et vient ravitailler Jules dans son bateau pour qu'on ne le remarque pas. Et puis, en fait, au bout de 48 heures, comme il commence à y avoir des questions sur le fait que cet homme, ce marin, ne sort pas, il attend son équipage, il présente Jules à son équipage et il intègre Jules à son équipage. On va nous lire ça. Alors, ça commence page 74 et je ne sais plus quand ça s'arrête. Si, ça s'arrête là. Ok, allons-y.
Rire encore. Et cette fois, les quatre marins. Me calmer. Je n'étais pas à la colonie. J'étais un évadé. Me calmer. Après cette pêche, je lui demanderai un moyen de rejoindre Quiberon. Il pourrait même m'y débarquer. Me calmer. Un instant, j'ai songé à détourner la chaloupe vers la côte. De prendre le novice en otage, le plus jeune de tous, mon couteau sous la gorge et direction la terre. Je n'avais aucune chance, il fallait que je me calme. Mathieu, le mousse, que tu remplaces, on l'appelle Mathieu Billon. Le patron barré, une main dans la poche. Petit Mathieu, tu comprends ça, mon neveu ? Neveu, le mot le faisait sourire. Je comprenais, oui, mais je détestais que l'on rit de moi. Tous le savaient à la colonie. Je n'aimais pas non plus qu'on m'appelle petit. Même le mot mousse, je ne le supportais pas. J'étais la teigne. Il fallait me craindre ou me respecter. Sur cette chaloupe, comme au réfectoire de Haute-Boulogne, comme partout et tout le temps dans ma vie. L'autre rameur était silencieux. C'était le gars trapu, au nez long et fin, cheveux frisés et coiffés en arrière, caché par un béret plus grand que ceux que nous portions. Le novice aussi était taiseux. Plus jeune que moi, c'est le seul qui portait une vareuse en toile huilée et une casquette marine. Il était posté entre la barre et le grand mât. Je me suis assis contre le banc de pompe. J'étais épuisé. Les matelots, perdus dans leurs pensées, je me suis demandé où je coucherais ce soir. La ligne d'horizon blanchissait timidement. L'aube n'osait pas encore. « Dors un peu, le mousse, » m'a conseillé le patron. Il a fouillé son sac et m'a balancé un caban noir. Il était lourd. La tête sur les filins, je me suis enveloppée dans la toile. Elle sentait l'huile et le goudron. Et puis j'ai dormi, sans me retourner, sans respirer, sans espoir de réveil. Avant de sombrer, j'ai revu le mur, le regard de Le Goff courant au renfort, le sang de Soudard. J'ai entendu les cris de l'oiseau. J'ai revu les vieilles sœurs. J'ai croisé le chasseur d'enfants dans le port. J'ai plongé une nouvelle fois dans l'eau, j'ai coulé, je me suis agrippée à la chaîne glissante, j'ai dormi. Sur le côté, les genoux repliés contre mon torse, deux doigts passés entre le ruban de ma mère et la peau de mon poignet. Léger coup de pied dans mon flanc. Le patron m'a enjambé. Au travail, le mousse. Il faisait jour, pas un bruit, aucune conversation. L'équipage scrutait la surface de l'eau. À l'arrière de la chaloupe, le novice laissait traîner une ligne de pêche. D'autres sardiniers tournaient plus au nord, en flottille. Mais la Sainte-Sophie maraudait seule. Le patron regardait le ciel, observait la couleur de la mer. Il y avait des fous de bassin à bâbord, et aussi des mouettes. Quelques-unes ont piqué dans l'eau tête la première. « La volaille s'excite !» a chuchoté un rameur. Brusquement, la ligne du jeune s'est enfoncée. Il a tiré sur sa canne un beau maquereau. Le patron a ordonné tout bas. « On affale !» Le premier rameur a ramené le taïwan. Le deuxième a mis la misaine à bas. « Aucun geste de trop, on n'attire pas l'attention. » Je me suis sentie inutile, j'allais d'un bord à l'autre. « Là où il y a du maquereau, il y a de la sardine », m'a glissé le novice. Il a sorti une fiole en verre de son paletot et un chapelet de pierre bleue. « Bénédiction », a lâché le patron. Lui et les matelots se sont agenouillés en rond. J'ai hésité. « Tu as peur d'user ton pantalon ?» disait notre aumônier. « Après tout, qu'est-ce que ça me coûtait ?» Face au père Bricou et au caïd, cette pantomime était ridicule. Mais ici, au milieu de l'océan qui m'avait recraché, pourquoi pas ? Tout ce qui pouvait me faire oublier était bon à prendre. À bord de la Sainte-Sophie, j'étais le neveu d'un patron de pêche, le fils d'un sardinier de Douarnenez et d'une ouvrière. J'ai enlevé mon béret comme les autres et mis un genou à terre. Ils étaient tête basse. Le patron a regardé mon crâne rasé. Il m'a fait un clin d'œil. Personne n'avait réagi. « Non, aumônier, je n'ai pas peur d'user mon pantalon. » Le jeune novice s'est signé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tous l'ont imité. J'ai suivi. Sa voix était douce. Il priait sans livrer. Sois favorable à nos supplications, Seigneur. Nous implorons ta bonté pour la Sainte Sophie. Écarte d'elle les vents contraires. Apaise par ta puissance les tempêtes et les vagues. Multiplie pour nous les poissons comme tu as rassasié les foules qui avaient faim. Protège et ramène à bon port ceux qui travaillent sur ce bateau pour gagner leur vie. Un temps, il a baissé la tête, puis il s'est levé et a aspergé les filets d'eau bénite. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen, a répondu l'équipage, même moi, neveu de Ronan. Il s'est subitement dressé. Le mousse, démate avec moi. Je connaissais cette manœuvre. Je l'avais faite sur le miséniers de la colonie. Je l'ai aidé à ranger les mâts le long du bord. Aviron dehors. Les deux rameurs ont rejoint leur banc de nage. Dans le lit du vent, a encore soufflé le patron. Les rames ont plongé silencieusement dans l'eau. Le mousse et le novice, vous jetez dehors. Je savais faire, j'ai suivi. Nous avions appris à lancer les filets droits au sec. Les poser sur la mer ne devrait pas être plus compliqué. Le jeune d'un côté, moi de l'autre, nous avons déployé la maille, lestée d'une pierre de 2 kilos qui la tiendrait à pic. Le filet était tendu, câblé au cul du bateau. Les flotteurs se sont éloignés. « On balance la rogue ?» j'ai demandé. Le patron a souri. Il se détendait. « Je vois que tu as retenu quelques notions. » Il a ouvert le tonnelet puant, m'a interrogé. « On commence par la rogue de morue. » Il a secoué la tête en sautant sur le coffre arrière de la chaloupe. « Raté, la rogue de hareng. C'est ce qui appelle la sardine. » Lentement, comme un semeur dans son labour, il a jeté les boules d'appât de chaque côté du filet. Une dizaine à bâbord, autant à tribord, dans un silence total. Au loin, des chaloupes s'interrogeaient. Nous avions dématé, elles avaient remarqué, nous devions être sur un banc. Elles ne tarderaient pas à venir infester nos eaux. Les nageurs de la Sainte-Sophie ramaient en silence. La rogue traçait son sillage gras au-dessus du filet. Une traînée blanche faite d'œufs de poisson, de farine d'arachide et d'huile rance, un léger nuage de lait. Ça travaille, a soufflé le novice. Les reflets de l'eau avaient changé. Il y avait de l'épaisseur sous la surface. Maintenant, boulette de morue pour faire remonter le banc. Le patron a jeté d'autres appâts. La valse des rogues déchaînait le fond. Tout doux la nage, messieurs. Le vent, les courants, la houle gênaient les rameurs. Le jeune était penché par-dessus bord. Il a remarqué les milliers de bulles d'air qui perçaient les vagues. Le banc était monté du fond. La sardine s'était levée. Il a presque crié « Bourbouille !» Le patron l'a pris par le col. « Tu veux un haut-parleur ?» L'autre s'est excusé. « On ne montre pas sa joie !» a répété son chef. Les lièges de filet s'étaient enfoncés. À l'horizon, d'autres sardiniers fonçaient déjà vers nous. Le patron a jeté les derniers appâts. Du maquereau pour fixer le poisson. On relève. Ordre bref. Aidé par le novice, le patron a saisi la drisse qui prolongeait les filets. Il avait fait pivoter la chaloupe. Elle était de côté pour que le poisson puisse être hissé à bord. Ils ont tiré le piège à quatre mains, en cadence, penchés en arrière et soufflant fort. Le filet battait l'eau avec force. Les poissons grouillaient. Une masse compacte, violente, luisante d'éclairs argentés. « Mousse, travaille le havenot !» Une immense épuisette, j'ai récupéré par dizaines les poissons qui fuyaient. Un instant, j'ai pensé à mon évasion. Des milliers de colons se débattant entre les mailles. J'ai vu le goff me courir après. Filet levé, comme pour capturer un papillon, j'ai essayé de saisir une poignée de sardines avec les doigts. On n'arrache jamais une sardine avec les mains. Le filet se déversait sur le pont. « Jamais, tu m'entends ?» La pêche était belle. Le poisson frétillait partout autour de nos pieds. Si tu abîmes le poisson, les usiniers te l'achèteront comme rebut, pas pour un sou. Le novice s'était précipité. Délicatement, il alignait les sardines dans les caisses. C'est le seul qui a le droit de le manipuler. Le patron a observé les chaloupes qui se rapprochaient. En tête, un dandy du palais. La pêche a bien donné. On démaillera au port. Il parlait normalement, plus besoin de secret. Route, terre, on rentre. La chaloupe aurait pu continuer la pêche. Les conditions étaient bonnes. Nous avions de l'avance sur les autres. À tribord, un nuage de mouettes dénonçait un nouveau banc. Le deuxième filet était prêt à être jeté, mais le patron a donné l'ordre de repli. Il a aussi annoncé qu'on dormirait à bord et qu'on ne repartirait pas en pêche avant vendredi. Ces trois jours à terre seraient payés. Personne ne s'en est plaint. Le novice s'amène à esquisser un pas de danse. Un peu de rhum et de l'hydromel a été versé dans les cafés. Peut-être faisait-il tout ça pour moi ? Il voulait profiter de l'absence de l'équipage pour m'emmener à Quiberon ou faire le point à terre, lui et moi, loin des autres ? Je ne savais pas. Nous avons maté, rangé les avirons, envoyé les voiles. Lorsque nous avons croisé le premier bateau de travail, son patron a ouvert les bras comme s'il interrogeait Ronan sur ses intentions. Pourquoi rentrer au port ? Ronan est monté sur le coffre en riant, une main en porte-voix, l'autre brandissant une dorane de 4 kilos. La cotriade n'attend pas. Puis, il a éclaté de rire et il s'est incliné pour une fausse révérence.
Oui, j'ai beaucoup aimé cet extrait parce que le patron, donc, qui s'appelle Ronan, c'est un marin libertaire, je vous ai dit, et dans son équipage, il y a un communiste et un basque qui vont également protéger Jules. Il est bien tombé, Jules, il s'est abrité dans un bateau qui, par hasard, est celui d'un patron pêcheur rebelle et sympathique pour, en fait, ceux qui sont, comme lui, rebelles. Mais d'un autre côté, dans cet extrait, on a vraiment la vie de la pêche, la vie des quatre marins, enfin du patron et des quatre marins, pendant une pêche de sardines. Et comme Françoise nous a très bien lu ça, n'est-ce pas ? On baisse la voix, on ne fait pas de bruit, parce que quand on repère le banc de sardines, les premiers, il ne faut pas se faire remarquer par les autres, qui ne sont évidemment pas très loin. Et c'est assez intéressant de voir qu'il y a une vraie vie des marins, une vraie vie du village, d'ailleurs, autour des pêcheurs. Et la fameuse cotriade à laquelle le patron fait référence, eh ben on va continuer un peu avec ça. C'est le fait que dès que les marins sont rentrés, ils ont droit au bistrot du coin, entre guillemets, à ce qu'on appellerait nous la soupe de poisson, avant de se séparer. Le vieux Mousse nous attendait avec sa chaloupe à la bouée du port Vihan. Il avait dormi sur le banc. Le novice et moi avons juste démaillé les filets, on les a secoués en cadence pour faire lâcher prise aux centaines de sardines encore accrochées. Et on a mis tout ça dans les caisses, bien rangées. Le vieux a crié « Ouais, vous allez être les premiers à la crier !» Les usinières se pressaient déjà sur le quai. « Donne-nous la main, le Mousse !» Avec le jeune et les rameurs, j'ai passé les paniers, les casiers, tout ça par-dessus bord. Le vieux les entassait et voilà, direct, à la criée. Et puis, nous avions fini de remplir ce canot pour aller à la terre avec les usinières. Et après, eh ben, à la cotriade. Non de la tête, trop de monde sur le quai, trop de commises d'usine, trop de touristes. Non, après, un peu plus tard. Si jamais on croisait un surveillant de la colonie parmi ces curieux, pas question. Oui, il avait compris, Renan. Il avait compris qu'il ne fallait pas trop montrer la tête de Jules. Renan, dit-il, a dissimulé le jeune, a dissimulé Jules en le faisant passer pour son neveu. Et en fait, avec lui, le neveu, entre guillemets, c'est-à-dire Jules, a trouvé un bon abri. Alors, on est presque arrivé à la fin. Enfin, on n'est pas du tout à la fin du roman, parce qu'il se passe encore des tas de choses. Jules devient un pêcheur aguerri, tout en étant abrité, en effet, par le patron pêcheur et l'équipage, qui, rebelles comme lui, ne le livreront jamais. Ils ne le livreront jamais. Il sera simplement... quelques années après, un peu renié par d'autres marins. Et il partira avec le Basque. Il partira faire la guerre au Pays Basque contre les franquistes et avec les républicains, bien sûr. Et quand il aura fini, et malheureusement mal fini, ce combat des républicains en Espagne, il deviendra résistant, parce que quand même, il faut bien que Sorge Chalandon nous fasse une histoire qui a un sens, n'est-ce pas ? Et voilà, ça se termine par la lettre au Boche qui va me fusiller. Je n'ai pas vraiment le temps de vous la lire. « Mais tu vois le Boche, dit Jules, tu n'as pas gagné. Et même si moi, le Boche, je meurs aujourd'hui, eh ben le Boche, il y en a d'autres qui te botteront le cul. » Donc, c'est un peu l'idée de Jules Bonneau. C'est un peu l'idée de Sorge Chalandon dans L'Enragé ou dans La Teigne, puisqu'il s'appelait aussi La Teigne. C'est que les fachos, on leur botte le cul. À bientôt pour d'autres aventures.
Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika.